Je pense qu'aujourd'hui, Rita nous a beaucoup aidé à commencer à porter dans nos cœurs le passage de mon père à notre père. Il nous a parlé aussi de cette question d'identité profonde. Puis pour moi, c'est une question capitale, ça, l'identité. Qui je suis? Je célébrais l'Eucharistie avec des jeunes à un moment donné dans mon ministère à Montréal au début. Moi, ça fait à peu près 35 ans que je suis ordonné prêtre. Puis, dès le début de mon ministère, je suis dans une école spécialisée pour des enfants handicapés. Puis, ils n'ont pas vu plus de prêtres qu'il faut dans leur vie, là. Pour eux autres, c'est nouveau. Puis, les collègues professionnels, ils en ont trop vu. Fait qu'eux autres, c'est ancien. Hein? Puis, alors, je chemine avec ça. Puis, un jour, dans une célébration eucharistique, je pose la question au premier, puis je dis, « Toi, qui es-tu? » Alors, je mets une licorne après la tête, là. Je lève son tableau de communication. Puis, il me pointe, « Je suis un paralytique cérébral. » Ah. Je suis content de te connaître. Je demande au deuxième, « Toi, qui es-tu? » Il dit, « Je suis une dystrophie musculaire. » Et les 10 se sont nommés par leurs limites. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils étaient au monde, on les regardait juste dans leurs limites. On s'intéressait à leurs limites. Puis eux, ils savaient plus qui ils étaient. Il y avait juste la relation horizontale, puis il y avait plus la dimension verticale. Fait que ce soir, on va continuer à réfléchir avec cette réalité-là, puis je vais vous inviter à accueillir une parole. Parfois, ben, vous la chantez, la parole, ben, je la connais. Puis parfois, probablement, ben, je vais vous la réciter parce que je ne la connais pas. Chanter. Hein? Mais c'est une parole qui a monté pendant que tu parlais ce matin. Elle est tirée de l'Évangile de Saint-Luc. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, ainsi s'est manifestée ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Acclamons cette parole de Dieu. Savez-vous ce que veut dire le mot « enfant »? On va l'air instruit quelques minutes, mais ça vient du mot infantes en latin. Celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas la parole, celui qui est sans parole. Alors, être un enfant, c'est être sans parole. Ça veut-tu dire qu'on est sans mots? On est sans parole. Pas pour rien qu'un enfant ne peut pas aller témoigner dans une cour. C'est parce qu'il n'est pas reconnu apte à la parole. C'est quoi une parole, puis c'est quoi des mots? Oui, il y a une dimension de vérité dans la parole. Avez-vous remarqué, tant qu'on fait une promesse, on ne dira pas aux gens, « Je te donne mes mots. » On le dit, « Je te donne ma parole. » Fait qu'une parole, c'est des mots dans lesquels est engagée la chair et le sang. La parole, c'est quelqu'un. C'est pas un alphabet. On reçoit bien plus souvent des mots qu'on reçoit une parole. Alors, un jour, j'ai reçu un téléphone. Et c'est l'hôpital qui m'appelle, Marie-Enfant, où je suis aumônier, à l'époque. Hôpital spécialisé à Montréal pour les enfants handicapés. Puis, on me dit, « Monsieur l'abbé, il y a un enfant qui est en train de mourir. Il y a 7 ans. Ou 8, je ne me souviens plus. Puis ça fait 8 ans qu'il est dans la même couchette. Puis il n'a jamais parlé. Acceptez-vous de venir y donner le sacrement des malades? » C'est sûr que si je leur dis, est-ce qu'il a reçu la catéchèse? Il n'a pas reçu de catéchèse. Est-ce qu'il a fait sa première communion? Non. Il n'a rien fait. Ça fait 7 ans que tout ce qu'il fait, c'est d'être malade dans une couchette. Alors, je pars. J'avais emmené mon rituel. Mais il sait pas lire. Puis il parle pas. Tu vas prendre tous les rituels que tu veux, là. Tu peux prendre la grande formule, la petite formule. Alors, je rentre dans la chambre, et dans cette chambre-là où il est, il y a 2 couchettes en métal. Hein, avec des barreaux de métal. Puis là, il y a un autre jeune qui est aussi limité que celui qui est là, mais qui n'est pas mourant. Puis là, tout à coup, moi, je suis accompagné de la responsable de fin de semaine de l'hôpital, là, puis d'un infirmier. Puis, dans la chambre, il y a une petite table sur laquelle il y a un radio. On joue de la musique. Bon. Et en entrant dans la chambre, l'autre jeune, qui est tellement pas habitué de voir du monde, hein, il se met à branler ses barreaux de couchette, là. Puis je serai en prison, puis je pense que ça ferait le même bruit. Puis là, ben, moi, je suis assis à côté, là, pas assis, mais debout, à côté de la couchette de l'autre qui est pas bien. Il est sous la tente d'oxygène. Puis, la radio joue. Puis les 2 en arrière parlent. Tout ça va bien. Puis j'ai l'air profondément niaiseux, j'ai le sentiment d'être insignifiant. De ne pas être à ma place. J'ai le goût de dire, bon, ben, je vais sacrer mon camp chez nous. Mais là, j'ai dit, on va regarder ce qui va se passer. Fait que je me revire de bord, j'ai dit, on va commencer la célébration, si vous voulez. Puis je retourne vers le jeune, mais il continue à parler. Bon, je dis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il continue à parler. Bon, je vais-tu aller éteindre la radio? Ben, je vais regarder ce qu'ils vont faire. Je ne les dingue pas. Fait que je commence, j'introduis une prière, puis là, je dis au bon Dieu intérieurement, bon, ben là, je ne vois vraiment pas ce que je fais ici. En tout cas, organise-toi donc, me dire quelque chose que je commence à comprendre de quoi. Fait que je prends mon petit rituel, je l'ouvre, je tombe sur une parole. Et la parole dit ceci. Jésus prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit, « Celui qui ne devient pas comme cet enfant ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. » Ben là, je dis, tu m'éclaires pas fort. Faut que je devienne de même. Puis je comprends rien. Mais je fais toute la célébration. Martin chez nous, puis je porte toute l'après-midi celui qui ne devient comme cet enfant ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et dans la cour de la journée, j'ai eu une révélation. J'ai pris conscience que dans cette chambre-là, il y en avait juste un qui était intelligent. C'était celui qui était en train de mourir, puis il vivait sa mort. Puis toutes les autres, on était complètement dysfonctionnels. Parce que celui qui est en train de mourir, puis qui vivait sa mort, qu'est-ce que vous pensez qu'il avait besoin? Il avait besoin qu'on l'apaise. Il avait besoin qu'on le rassure. Il avait besoin qu'on soit proche de lui. Il avait besoin de sentir qu'on était là. Puis nous autres, on n'était pas là. Puis on n'était pas capable d'y toucher. Puis, on n'était pas capable de rien faire parce qu'eux autres vivaient la panique devant la mort. L'autre vivait l'excitation devant des humains qui étaient là et qui en voyaient à peu près jamais. Puis lui, il mourait tranquillement. Hey, je suis assez content d'avoir vécu ça au début de mon ministère. Parce que c'est fou tout ce que ça m'a révélé. Quand je vais rencontrer d'autres. Alors, un jour, j'en suis un autre téléphone. Bon, ben, monsieur l'abbé, dans nos gravataires, il y en a une, là, qui se fait 3 semaines qui est supposée de partir, puis elle part pas. Donnez-vous le sacrement des malades à du monde de même? Oh, ben, vous me le demandez tellement gentiment, comment je pourrais dire non? Fait que je vais y aller. Fait qu'il me présente la petite fille. Alors là, j'avais appris, moi, là. J'avais quelqu'un qui m'avait fait une révélation. Hein. Il m'avait pas dit un mot, hein? Il n'avait pas parlé, là. Il m'avait fait passer de l'inconscience à la conscience. Alors, j'ai pris la main de la petite fille. J'ai demandé aux autres, elle s'appelle comment? Ils m'ont donné son nom. Je l'ai appelée par son nom. Puis je lui ai dit, garde, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais il y a quelqu'un qui te connaît depuis toujours. C'est Dieu, notre Père. Puis là, peut-être que tu as bien peur de ce qui se passe puis de ce qui pourrait arriver. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vas tomber dans ses bras. Il te connaît et te reconnaît. Puis tu vas vivre dans une lumière puis un amour qui va tout te remplir. Et morte quelques heures après. Fait que là, il avait pris l'habitude de m'appeler pour ceux qui ne mourraient pas. Qui tardait. Puis, j'allais toutes leur faire ma petite prière. Puis, je leur touchais. Puis, je les appelais par leur nom. Puis, tranquillement, ils s'en allaient. Une journée, j'arrête à côté d'un lit où il y en a un qui est noir. Dans des draps blancs, 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 comme dans les hôpitaux, on est capable de rendre tellement blancs les draps, hein, puis ils se tiennent tellement bien qu'ils nous ouvrent toute la peau. Puis, fait que je passe à côté de son lit, puis c'était marqué sur son nom, là, Kevin. Fait que j'arrête à côté du lit, je dis, « Bonjour, Kevin! » C'est un grand sourire. L'infirmière, elle me dit, « Perdez pas votre temps, il n'est pas intelligent. » Ben, j'ai dit, justement, moi, j'ai beaucoup de temps à perdre. Ça tombe bien, hein? Fait que j'ai dû rester un peu avec Kevin. Alors, je m'approche. Bon, j'ai dit, Kevin, je vais te faire vivre une expérience que je pense que tu n'as pas vécue depuis que tu es au monde. Je me penche et je l'embrasse sur la joue. Il se met à rire, mais à rire, à rire. Bon, il arrête. Ben, je vais essayer sur l'autre joue, Kevin. Sur l'autre bord. Embrasse. Il se met à rire. Hein? À rire. Puis je m'en vais chez nous. Puis là, je me dis, si j'adopte Kevin, vont-tu comprendre quelque chose? Parce que je sortais des fois des réunions, là, moi, avec mes collègues. Puis, il y avait une telle colère en moi, là, que pour retrouver la paix, j'allais embrasser Kevin. Puis là, Kevin se met à rire. Vous savez, si pour remplir la vie de quelqu'un, là, il suffit de l'embrasser, ça joue. Voulez-vous me dire pourquoi on dit qu'il n'est pas intelligent? Pas lui qui n'est pas intelligent, là. C'est nous autres qui comprenons pas qui est Kevin. C'est pas un malade déficient profond, grabataire qui est dans un lit de paumon. S'il est dans son lit depuis qu'il est au monde, là, c'est parce qu'on ne l'a pas sorti. C'est un enfant de C'est un envoyé. C'est un pain de vie. Vous savez, quand moi je m'en vais rencontrer mes résidents à Saint-Charles-Borromée, là, à Montréal, je m'en vais me nourrir. Là. Je m'en vais recevoir un pain de vie. C'est pas moi qui le fais le pain. Puis dans la parole dont je vous ai chanté là au début, là, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Le Père, c'est une révélation. Puis, on n'est pas des descendants, nous, de la loi. On est les descendants de qui? On est les descendants du Christ. On est dans cette descendance-là, là, nous. Là. C'était quoi qui était au cœur de la vie de Jésus? Le Père. Notre foi nous situe sur une terre d'alliance, dans des liens, hein? En des liens. Et ça me faisait rire le premier temps que je rappelais à Montréal, quelqu'un disait, on va laisser venir les chaises roulantes. Ben, vous êtes toutes des bancs de bois, là, vous autres. Là. C'est absurde. Sur cette feuille. Quand j'ai commencé mon ministère, moi, Victor Doré, toute la journée, je rencontrais les enfants, je les voyais, je les croisais. Le seul moment où je voyais les fauteuils roulants, puis les marchettes, c'est le soir quand je m'en allais, puis ils avaient tout mis dans le local. Puis là, je passais devant ça, puis ça me faisait peur, mais dans la journée, je les voyais pas. Parce qu'il y avait quelqu'un de situ. Puis cette personne-là était un don de Dieu. Une des premières paroles moi, que j'ai entendues de Dieu dans mon ministère comme jeune prêtre à l'école Victor Doré, c'était ceci. Pierre, ne crois pas que tu vas pouvoir me donner un tant soit peu à eux, si toi, tu ne m'as pas d'abord reçu d'eux. Si tu m'accueilles pas d'eux, tu ne pourras pas me révéler à eux. Pardon? L'incarnation. Le Fils. Hein? C'est quoi l'incarnation? Hein? C'est quoi? M'en dire un mot là-dessus. Fais la funéraille de ma nièce jeudi dernier. Alors, ma nièce, elle est morte à 49 ans. À 23 ans, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Elle a vécu, donc, 26 ans avec la sclérose, qui s'est développée dans son cas de façon excessivement rapide. Ma nièce ne s'est jamais plaint. A toujours trouvé la vie belle. Ma nièce remontait le moral de ma sœur puis de mon beau-frère. Remontait le moral de tous les employés des centres qu'elle a faits. Puis de tous les autres résidents avec lesquels elle a vécu. À 49 ans, à sa funéraille, tous ses amis étaient là. Elle en a perdu aucun. À la fin, et depuis bien des années, on avait énormément de misère à la comprendre. Elle n'avait plus beaucoup de mots, mais c'était une parole. Alors, à la funéraille de ma nièce, avant la célébration, une autre de mes nièces me dit, « Mon oncle, je voudrais dire un mot au début de la célébration. » Ah, j'ai dit, Karine, je suis bien content que tu prennes parole. Fait qu'elle est arrivée avec sa marchette parce qu'elle a la paralysie cérébrale. Hein? Belle famille, hein? Alors, et au début de la célébration, Karine a dit ceci. D'une voix claire, comme ça avait toujours parlé un public. Je voudrais rendre un hommage à ma tante, à ma cousine Sylvia. Elle dit, vous savez, Sylvia ne s'est jamais plainte. Elle était toujours souriante. Puis elle nous faisait toujours du bien quand on la rencontrait. Puis elle dit, moi, j'ai un handicap bien moins pire que le sien. Puis je comprends pas pourquoi je l'ai. Puis je suis malheureuse. Puis je me plains souvent. Puis elle dit souvent, quand je me prenais en train de faire ça, là, ben elle dit, je pensais à Sylvia. Puis elle dit, j'arrêtais. Fait qu'elle dit, je veux dire à ma cousine que pour moi, elle n'est pas morte, puis qu'elle reste vivante, parce qu'à chaque fois que je vais perdre la route, je vais penser à elle, m'a retrouver. Alors, j'ai dit à Karine devant tout le monde, je pense que tu viens de faire une belle chose, Karine. Tu viens d'autoriser Sylvia d'être une parole. La plus grande dignité qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'autoriser d'être pour nous une parole. Que son être, que sa personne ne nous laisse pas indifférent et transforme ce qu'on est. Quand on accueille une parole, on n'est plus le même. On n'est plus la même personne. Lorsqu'on autorise une parole, elle nous transforme. Elle nous convertit. Quand, à l'âge de 7 ans, j'ai entendu de la part de Claude, Dieu m'appeler à être son père pour qu'il devienne mon fils, j'ai accueilli une parole. Tu étais la confirmation de Claude. J'étais trois jeunes handicapés qui étaient pour être confirmés. Et pendant que l'évêque est en train de préparer la prière de confirmation, moi j'étais assis dans les airs, là, à côté de l'évêque. Puis là, j'ai vu Claude commencer à s'en aller d'une crise d'épilepsie. Bon, c'était pas marqué dans le rituel là, que je pouvais descendre puis m'en aller à côté. Hein? Mais il y avait quelqu'un qui m'avait appris qu'on pouvait les donner à main. Ça changeait quelque chose. Fait que je suis descendu. J'ai donné la main à Claude. Puis il a pas fait de crise d'épilepsie. Il est revenu à lui. Puis l'Esprit Saint, il a tombé dessus, puis il était réveillé. Merveilleux. Moi, je suis remonté m'asseoir à côté de l'évêque. Puis là, j'ai entendu Dieu me dire ceci. Pierre, c'est beau de confirmer les enfants dans l'amour d'un Dieu Père. Mais c'est très, très, très difficile pour quelqu'un qui n'a pas de Père de recevoir le signe de l'amour du Dieu Père. Fait que je t'invite à être le Père de Claude. Je suis sorti de cette célébration-là, je savais plus qui avait été confirmé. Hein? Je savais plus. Alors, Claude a maintenant 42 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, Claude? Il a fait de moi un Père. Puis moi, j'ai fait de lui un fils. Monsieur le curé, il est-tu intelligent, votre gars? Oui, il est intelligent, mon garçon. Vous êtes sûr, là, monsieur le curé, qu'il est intelligent, votre garçon? Oui, oui, je dis, moi, mon garçon est intelligent, je suis sûr. Mais déjà, vous me dites ça parce que vous êtes le père. Non, non, je sais pas ce qu'il est intelligent. J'ai dit, quand je dis quelque chose, il comprend tout de suite. Vous, ça fait trois fois, je vous le dis, vous comprenez rien. C'est quoi être intelligent? Alors, dans une belle préparation à l'école de première communion, alors, on fait ça sérieusement, nous autres, dans les milieux spécialisés, vous savez, là, on est des gens sérieux, puis on est bien équipés, hein? Puis on a des belles tables. Alors, il y a le travailleur social, le conseiller en orientation, le psychologue. Dans le temps, il y avait un curé, depuis ce temps-là, il n'y en a plus, mais les autres sont restés, mais les curés sont sautés. Bon, puis il y avait le directeur d'école, puis l'infirmière, bon, on est tous là, là. Puis là, il faut que je présente mes candidats à la première communion. Alors, là, je les présente. Puis là, on commence par me dire, « Ouais, ben là, un tel, je suis pas sûr qu'il est prêtre, là. » Ah, bon. Il demanderait peut-être un an de plus, là. Bon, on peut faire ça. Puis l'autre. Puis, bon. Fait que finalement, cette année-là, je n'avais passé 3/7. Puis, il y en avait 4 qui avaient été remis pour l'année d'après. Fait qu'on se retrouve dans la même réunion l'année d'après. Puis là, je représente mes candidats. Puis là, c'est le même discours. Puis là, je me sens comme Jésus, là, tant qu'il a fait l'entrée dans le temple, là, puis il y avait des marchands. Hein? Fait que... Bon, ben, j'ai dit, écoutez, vous me dites que vous pensez qu'ils sont pas prêtes, puis ils comprennent pas c'est quoi la première communion. Bon, Vous avez l'air d'avoir plus de discernement que moi. Alors, je regarde le Jean-Guy, c'est le directeur de l'école. Je regarde dans les yeux, là. Je dis, Jean-Guy, toi, tu l'as fait, ta première communion? Il dit, oui. Explique-nous donc, c'est quoi la première communion? Fait que, penche la tête. Je lui dis, Serge, il n'y avait pas personne qui savait c'était quoi première communion. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas si mes amis sont prêtes ou s'ils ne sont pas prêtes. Il y a une chose que je sais pas. J'ai vraiment tout fait pour les préparer. Puis, je ne pourrais pas en faire plus. Alors, voici la question que je me pose. Sommes-nous prêts, nous, à ce que eux aient une première communion avec le corps du Christ? Sommes-nous prêts de nous en déposséder pour qu'ils ne soient plus dans une école spécialisée, mais qu'ils se retrouvent dans une communauté chrétienne où ils seront là parce qu'ils sont des envoyés et que le Christ est en train de se révéler à travers eux et que tous ceux qui sauront les approcher vont recevoir une vie en abondance. Sommes-nous prêts? Si vous ne l'êtes pas, je le suis. Alors, ils ont fait leur première communion. Mes amis, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas parler de cette personne. Tu ne peux pas révéler qui elle est, parce que la seule réalité qui nous permet de pouvoir révéler l'autre dans son identité, c'est l'amour. Pas pour rien que le texte nous dit « Et nul ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Si on n'entre pas dans la communion, si on n'entre pas dans la relation, on ne peut pas révéler le Père. On peut faire toutes les catéchèses qu'on veut, toute la théologie qu'on veut, mais on peut pas entrer dans la révélation du Père. Dans un cinéma, peut-être avec Claude puis d'autres, une dame qui s'approche, elle dit, c'est vous qui êtes avec eux? Oui. C'est donc beau. C'est donc beau. Ah. Je me suis retenu. Parce que elle était avec son mari. J'ai eu le goût de dire à son mari, c'est vous qui êtes avec elle? C'est donc beau. Et quand on n'est pas dans la relation, quand on n'est pas dans la communion, on est dans le champ. complètement dans le champ. Quand quelqu'un a une maladie mentale, puis qu'on dit, c'est un malade mental, ben, on peut poser la question, est-ce que vous savez à quelle date il est né? Savez-vous si, où il aurait été baptisé? On va aller chercher son baptistère. Et je vous jure que sur le baptistère, le nom, ça ne sera pas malade mental. J'ai 35 ans de ministère. Il n'y en a jamais un qui a été baptisé comme ça par moi. Puis dans tous mes confrères que je connais, là, a jamais été un nom qui a été donné. Alors, la personne qui a une maladie mentale, c'est d'abord un enfant de Dieu. Puis est-ce que je vais l'autoriser, moi, à être, lui, une parole pour moi? Je vais-tu la regarder dans sa dignité? L'autre soir, dans le petit mot que j'ai dit au salon pour ma nièce, à l'âge de 5 ans, elle a perdu son frère qui avait 3 ans, du cancer du sang. Et ma sœur a pleuré pendant 1 an, 2 ans, avec une dépression, a fait 7 fausses couches. T'es fou, 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 fou. Alors, j'ai dit à ma sœur, je pense que Sylvia a autorisé son frère Danny à être pour elle une parole. Elle t'a vu tellement brailler. Elle t'a vu tellement souffrir. Elle a tellement vu comment ça allait mal avec la vie dans la famille. Qu'elle s'est dit, moi, je veux pas faire brailler ma mère. Je veux pas faire souffrir. Puis je veux pas que ça soit dur. Fait qu'elle a reçu bien comme faux Danny, puis elle s'est jamais plainte. Puis elle a remonté le moral de tout le monde. Puis elle a pris soin de tout le monde. Puis même, quand vous avez été en problème de violence conjugale, comme Dieu avait confié votre lien à cette gardienne que vous êtes allé faire manger tous les jours, dîner puis souper, puis que vous avez fait ça depuis 20 ans de temps, ben le pain que vous y avez donné, vous l'avez reçu en pain de vie, puis elle vous a remis ensemble. Puis, votre fidélité de parent a été la guérison de votre dimension d'époux puis d'épouse. Autorisez l'autre à devenir une parole. Mon autre neveu qui est né au bout de 9 fausses couches, c'était celui qui a dit, oui, la vie est encore possible dans cette famille et cette maison. Dieu nous aime, puis il ne faut pas penser qu'il est très loin. Dieu y est un Père, et il est toujours dans votre maison. Quelles sont les paroles qu'il vous appelle à autoriser pour que vous deveniez des fils, des filles, et que vous puissiez révéler à ceux que vous aimez qui est le Père. Amen.